Vous écoutez Derrière Environnemental, le magazine d'information en environnement. On en a beaucoup parlé ces derniers temps, les PPP, les partenariats publics-privés. Ça, c'est le super beau bébé de Jérôme Monique Forgette. Monique, c'est son petit nom, bien entendu. Ne l'oublions pas. Elle nous dit que ça nous prémunit contre la privatisation de l'eau, alors que d'autres disent complètement le contraire. On a voulu faire la lumière là-dessus, et qui de mieux placé que M. André Boutier, président de la coalition Au Secours, qui est une coalition donc de citoyens, citoyennes, entre autres, pour une gestion responsable de l'eau. Donc, on a voulu savoir, est-ce que ces PP-là vont pas être, PPP-là vont pas être une menace sur l'eau, et en quoi ciblés? Donc, c'est le son. Donc, M. Boutier, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous allez bien?
C'est mon plaisir. Merci.
Donc, on voulait commencer par une petite question toute simple.
J'imagine.
Si vous pouvez expliquer, c'est quoi les projets de loi? Le projet de loi 61 et 62, donc, qui sont pas encore adoptés, mais qui risquent de l'être d'ici Noël. Donc, quels sont ces deux projets de loi-là et en quoi est-ce qu'ils menacent l'eau?
Un premier projet de loi qui permet la création de partenariats publics-privés, c'est-à-dire l'introduction du capital privé dans la gestion de l'eau au Québec. C'est nouveau, ça n'existait pas. Et pour ce faire, il y a un projet de loi qui s'appelle 61 et on crée une agence. Pas tout à fait un ministère, pas tout à fait détaché comme les Hydro-Québec, commentent les deux. Une agence qui devrait inciter tous les agences gouvernementales, c'est-à-dire le PIRI public, le PARA. PIRI public, c'est, bon, Hydro-Québec, PARA public, le municipal, la santé, les commissions scolaires, etc. Donc, eux devraient faire la promotion des PPP.
Pourquoi faire la promotion des PPP?
Ben, parce que le ministre sent qu'il y a beaucoup de réticence à aller dans ce voie-là. En 1997, il y a une série de lois qui ont été adoptées qui s'appelait les sociétés d'économie mixte. Et il y a peu de monde qui ont voulu s'en prévaloir parce que ça menaçait la pérennité des infrastructures municipales. Alors, nous, on s'inquiète de cet avènement-là. Maintenant, si en 97 ça n'a pas été bon, pourquoi aujourd'hui on revient avec une autre formule où on en rajoute encore plus pour aider le privé à s'accaparer de la gestion de l'eau? Donc, on trouve ça très inquiétant.
En quoi, justement, c'est cette chose-là, donc le fait que le privé s'accapare la gestion de l'eau, en quoi est-ce que c'est problématique? Puis en quoi même on utilise le mot menaçant? En quoi est-ce que c'est menaçant pour les citoyens et citoyennes et pour la ressource, bien entendu?
Ouais. C'est menaçant à plusieurs niveaux. On va prendre le premier, qui est la démocratie. C'est tannant de voir qu'une compagnie privée aurait la sécurité d'emploi pendant que le même gens qui leur donne ne veulent pas de nos employés, mais ça, c'est à part. Mais quand même, voudrait donner des contrats qui dureraient pendant 30-35 ans, pendant que une élection, le temps d'élection d'un élu, c'est 5 ans. Alors, ça veut dire qu'un contrat est là sous M. le maire un tel et 30 ans plus tard, t'as pas pu te débarrasser de ça si ça va mal. Ça dépasse le temps des politiciens qui sont là, donc ils perdent l'expertise. Ils en débattent plus, parce qu'il n'y a rien à débattre, sinon probablement indexer les montants d'argent qui sont prévus dans le contrat. Donc, sur le plan démocratique, c'est pas normal. Sur le plan des coûts, faut ne pas savoir compter. Écoutez, je viens de vérifier un appel d'offres actuellement pour remplacer des tuyaux à la ville de Saguenay. 12 millions. 4,8% le loyer de l'argent. Alors, ils vont aller emprunter chez des financiers à 4,8%. Si on fait un PPP, on donne ça à une compagnie privée, voici ce qu'elle va être obligée de faire. Emprunter, pour commencer, le taux de la Banque du Canada qui est 3%, 2, la marge de profit de la banque ou des financiers qui vont prêter, un autre 3%. Ensuite, on va évaluer le taux d'endettement de la compagnie qui va vouloir faire le travail, comme SNC-Lavalin maintenant. On va y mettre peut-être un petit pourcentage de plus. Et là, on va regarder quelles sont ces immobilisations. Et on sait que ces compagnies-là n'ont pas de propriété, sauf des sièges sociaux. Donc, on va rajouter un autre petit montant parce qu'il y a un risque et ils peuvent faire faillite un autre petit montant. Alors, je ne sais pas c'est quoi le montant, mais vous avez peut-être un 8%, mettons, 8%, et là, vous rajoutez les profits aux actionnaires, qui est normalement 10%, et les frais d'administration. En quoi ça, c'est intéressant sur le plan financier quand on emprunte avec des règlements d'emprunt actuellement à 4,8%?
Mais quelle est leur logique? Parce que là, il doit y avoir une logique derrière tout ça. Je ne peux pas croire qu'ils sont simplement complètement débiles. Là, ça,
à part de dire que PPP, c'est vraiment un partenariat... Je l'ai perdu, je m'excuse. J'avais trouvé ça primitif, je trouvais ça drôle. D'accord.
Un jeu de mots.
C'est plus drôle quand on ne le dit plus, là, quand on ne s'en souvient pas. Alors, je reviendrai ou je vous ferai dire, vous l'enverrez par courriel.
Avec plaisir. C'est ça. Donc, c'est peut-être pour se libérer des argents qu'il ne serait pas autrement, parce que pourquoi
ben,
vouloir
c'est
aller...
C'est beaucoup de patronage, écoutez.
Les amis du pouvoir, ça,
ben, c'est ça, pour patronage payant, c'est ça mon affaire.
Ah.
Pour patronage payant, il faut se souvenir que le ministre... des finances et l'ancien représentant de la Générale des Eaux. Et il faut savoir que Mme Forget, elle aussi a travaillé chez Chabot et autres, qui sont des, les gens qui recommandent tout ça. Alors, si on gratte un peu, on va s'apercevoir
que ça pue.
Qu'il y a des relations. C'est pas hors de tout doute, là, parce qu'on peut pas dire ça, on n'a pas fait de la preuve hors de tout doute, mais ça sonne drôle. Maintenant, il y a une tendance de dire, chez ces gens-là, le privé est meilleur que le public. Moi, je ne sais pas, tu as deux ingénieurs spécialisés dans le domaine de l'eau, ils sortent tous les deux des, de Polytechnique. Expliquez-moi comment un, quand il rentre dans le privé, il est embauché au privé, tout à coup, il est super bon, puis quand il est embauché au public, il est pourri. C'est quoi le truc? Ça ne marche pas là. Ça ne se tient pas, c'est de la fantaisie, tout ça. Mais de la fantaisie qui est très, très payante pour les grandes entreprises. Et même les maires des villes ne veulent pas de ça. Ils disent, on est capable de s'organiser avec nos règlements d'emprunt. On veut avoir le pouvoir sur la qualité de l'eau qui sort. On veut être capable d'intervenir à tous les jours. C'est ça l'histoire. Quand tu as un contrat, si tu n'as pas prévu quelque chose dans le contrat, tu ne peux pas le modifier. Ou si tu le modifies, tu payes des extras. Alors, il n'y a pas de free lunch. On connaît ça. Là. Ça fait très, très longtemps que ça existe. Les PPP sous d'autres formes. Ça s'est appelé impartition. Ça s'est appelé sous-traitance. Ça s'est appelé filialisation. Et il y en a là.
Si vous voulez, on s'arrête quelques instants ici, puis on va revenir avec ces exemples, parce qu'on a tenté de faire ce type de manœuvre-là à l'étranger. De toute évidence, les gens se sont cassés les dents. Il y a des gens qui ont fait faillite, des municipalités, entre autres. Donc, au retour, on aborde ces questions-là.
Bienvenue à cette journée d'enquête, novembre 2004. Alors aujourd'hui, les enchères sont très peu élevées. L'eau du Québec est à vendre, ladies and gentlemen. The water of Quebec is for sale. Quelles sont vos offres, mesdames et messieurs? La personne en charge ici, Monique Jérôme Forget, elle est en charge. Alors, on prend les premières offrandes. 5300 ici, 200. 5400. Est-ce quelque chose qui est-ce que quelqu'un?
10 000
en arrière. 12 000 vendus au gros monsieur avec un chapeau en arrière.
Alors,
15 000 ici, la grosse madame avec un tupet dans le front.
Hey, vous écoutez toujours Délirium environnemental. On a toujours le plaisir de s'entretenir avec M. André Boutillier de la coalition Au Secours, que je vous invite à découvrir, qui font un travail magnifique. Entre autres, ils sont alliés à des porteurs d'eau qui portent le message et la protection de l'eau. Aux yeux du grand public, c'est bien important. Donc, on parle du projet de loi 61 et 62. Le but, justement, c'était un peu d'essayer de démystifier tout ça. On a beaucoup parlé de la question de l'eau, mais ça ne concerne pas uniquement l'eau. Ça concerne beaucoup d'autres choses.
C'est toute activité de l'État. Ça touche la construction d'écoles, la construction de prisons. Ça touche les hôpitaux dans la santé. Tout ce que l'État fait est menacé d'être transféré au secteur privé de l'économie. C'est simple comme ça. Le projet de loi, ça c'est 61. Le projet de loi 62, c'est plus des c'est un projet de loi qui parle en particulier aux municipalités. Et ça dit aux municipalités, voici maintenant ce que vous aurez le droit de faire. Vous aurez le droit de produire de l'électricité. Alors, en leur donnant ce droit-là, vous comprenez que là, on enlève du revenu à Hydro-Québec, on enlève la possibilité de faire de la production électrique à moindre coût, parce que les villes, si elles le font, elles devront le faire avec le privé. Alors, c'est encore ce que j'ai raconté tantôt par rapport au coût, tout ça. Ensuite, on s'est beaucoup plaint au secours de l'état des cours d'eau dans les campagnes du Québec. Ils avaient été retravaillés par la pépine des agriculteurs qui avaient redressé les cours d'eau et la pollution coule de plus en plus vite vers le Saint-Laurent et la sédimentation aussi. Alors, imaginez-vous maintenant que le ministère de l'Environnement qui devait s'occuper de tout corriger ça, ce qui était fait au Québec, a transféré ça aux municipalités.
C'est ce que le projet de loi
62 propose. Donc, tous les cours d'eau sont maintenant sous la responsabilité, ou seront sous la responsabilité des MRC.
Mais on s'était doté d'une politique nationale de l'eau. Est-ce que cette politique-là n'aurait pas dû nous protéger contre ce genre de projet-là?
Ah, vous parlez de la défunte politique nationale de l'eau, parce qu'elle est défunte, cette chaire. Puisque un conseil des ministres l'avait adopté quand ils étaient au pouvoir, c'était le Parti québécois. À partir du moment où vous avez un autre parti politique qui arrive et qu'eux ne revotent pas la politique, c'est de la pensée magique.
Donc, on n'a plus de politique nationale de l'eau au Québec.
Le ministre dit, je continue à l'appliquer, je continue à faire comme
si. Mais de bonne foi.
Mais la vérificatrice générale du Québec a dit, arrêtez de dire que vous faites assemblant. Vous faites assemblant parce qu'elle a vérifié en décembre 2003 et il n'y a rien fait.
Parce qu'une politique sans les lois, programmes et règlements,
c'est rien. Une politique, c'est juste les ministres qui, entre eux, disent, bon, écoutez, on va essayer que ça soit beau ici dans l'appartement. Là, puis on va mettre de la peinture claire. Okay. C'est tout. Après ça, t'as pas de peintre, t'as pas de budget, t'as pas de couleur.
On se rappelle que dans la politique de l'eau, on avait un chapitre entier consacré à la gestion intégrée du fleuve et entre autres des bassins versants.
Oui.
Donc on avait identifié des organismes de bassins. La loi ou le projet de loi 62 vient complètement dire que cette belle idée-là, on s'en balance totalement.
C'est-à-dire que ça ne dit pas que la ville ou la MRC va défaire les comités de bassins versants. Le ministère continue à financer 30 quelques comités de bassins versants à des sommes ridicules d'ailleurs, ils ne peuvent pas faire grand chose, mais quand même c'est pas attaqué directement, sauf que là maintenant on sait que le ministère de l'Environnement n'a plus grand chose à faire dans tout ça, c'est vraiment les MRC. Et qu'est-ce qu'on fait quand dans un bassin versant tu as 3 MRC? Alors tout ça c'est pas réglé, loin de là. Alors dans le projet 62 vous avez ça et vous avez le summum, le nec plus ultra de l'économie privée qui dit maintenant une ville, si elle veut avoir des subventions du gouvernement provincial, donc du ministère des Affaires municipales, devra procéder en PPP. Absolument. Et si votre PPP dure 30 ans, okay, c'est dit que la ville va pouvoir tarifer particulièrement les citoyens de sa ville là-dessus, sur le PPP. Alors, ce qui veut dire que vous n'aurez pas de baisse de taxes. Pas du tout. Ils vont prendre le montant de 30 ans, divisé par tant d'années, divisé par tant de propriétaires, et ça va être un tarif spécial. Donc, à partir de ce qu'on paye maintenant, on va payer plus cher, c'est automatique, là, parce qu'ils vont tarifer. Alors, donc, c'est une mauvaise nouvelle pour les locataires qui vont voir leur loyer augmenter, puisque les propriétaires, les taxes vont augmenter, si la ville fait un PPP.
Bon,
et ça va loin. Si la ville veut pas faire de PPP, elle n'a pas sa subvention.
Non, mais arrêtez-les, quelqu'un. Mais
oui,
vraiment,
ça
sera ma prochaine question. Est-ce qu'il y a possibilité de réagir? Parce que là, c'est toujours à l'état de projet. Est-ce qu'ils vont être... Où est notre super-héros? On a besoin d'un super-héros, mais comment les arrêter, justement?
Ben, écoutez, pour commencer, le premier projet de loi 61 est en commission parlementaire. Il y a 44 groupes qui se font entendre ou qui sont fait entendre. Et là, la ministre a promis qu'elle ferait des modifications. Le 62 était déposé en première lecture, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale en juin passé. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec. Il est là. On n'a pas vu de date de commission parlementaire. On n'a rien vu encore sur le développement. Qu'est-ce qui peut les arrêter? Ben, c'est ce qu'on appelle la politique. C'est-à-dire que nous, on prône que les citoyens, quand ils entendent parler de ça, bougent. Et est-ce qu'ils vont bouger tout seuls ou on va les aider? Bien sûr qu'on va faire une campagne. Mais si les gens n'écrivent pas, ils sont tellement sûrs, eux, là-bas, qu'ils ont raison. J'expliquais l'autre jour à des gens en conférence, c'est pas parce que t'es ministre de l'Environnement que tu connais ça. Le nôtre, actuellement, c'est un avocat, là, et il arrive là-dedans comme un chien d'un jeu de quilles. Chaque ministre de l'Environnement, je n'ai pas ces trois, faut t'y rééduquer. Et, qu'est-ce que tu veux, ils savent pas. Et celui-là, entre autres, avec son gouvernement, ont des fonctionnaires qui pourraient les aider, et ils n'en ont pas confiance. Ils n'ont pas confiance aux fonctionnaires publics. Alors, ils vont chercher leur conseil chez des consultants privés. Ce qui fait en sorte que le consultant privé, il n'ira pas y dire « faire affaire avec la fonction publique ». Il va dire « faire affaire avec nous ». Puisque nous, on peut te donner ces conseils-là. Eux cherchent des contrats. Alors, il y a un problème là, d'éthique, il y a un problème de compréhension.
Clairement. Si vous voulez, on va s'arrêter un peu ici. Au retour, on va terminer. Okay. Ok, ça va être... retour à Délirium environnemental. Que voulez-vous, même quand on passe la musique, nous, ici, on continue à discuter de ces sujets passionnants. Et aujourd'hui, pour discuter avec nous, on reçoit André Boutier de la Coalition Au Secours, qui est définitivement une organisation à découvrir. Donc, on parle avec lui de ces inquiétants et fameux PPP. En fait, ces deux projets de loi 61 et 62, on vous l'avait promis tout à l'heure, mais allons-y maintenant sur ces exemples de ce qui se passe à l'étranger. C'est une question d'affiliation politique, ça, mais à Hamilton, au Canada, il se passe des choses pas drôles. Il semble que Mme Jérôme-Monique Forgette, ou en tout cas, dans n'importe quel ordre que vous voulez dire,
c'est mélangé dans n'importe quel ordre.
Exactement. Elle a dit que c'est ce qu'il y a de mieux pour nous aider avec la gestion de l'eau. Par contre, vous nous disiez pendant justement la pause que l'exemple d'Hamilton en est un probant.
Hamilton et bien d'autres. Là, on pourrait parler de Sud-Argentine, on pourrait parler d'Atlanta aux États-Unis. Et Hamilton, c'est le plus beau cas puisqu'il est chez nous, au Canada, sur le continent, à même hauteur, la même température. Les coûts ne peuvent pas changer tant que ça. Alors, le maire de Hamilton avait décidé, il y a une dizaine d'années, que lui, les PPP, c'était tellement intéressant que la ville était pour bâtir sa propre compagnie qui ferait des PPP, donc avec des gens locaux. Ils ont vraiment mis sur pied une compagnie privée et ils ont donné le contrat en PPP de gérer l'eau potable et l'eau usée. Pendant 10 ans, ils ont vécu avec ce régime-là. Non seulement ont-ils eu des problèmes sans arrêt parce que la façon dont gérait la compagnie privée, même si c'était la leur, appliquait des règles privées, donc l'intérêt c'était de faire du profit, et non que l'eau soit de qualité. Alors ils ont eu des déversements et des débordements dans les maisons, la qualité de l'eau a baissé, à un point tel, et ça c'est dur pour des politiciens, imaginez-vous 10 ans plus tard d'être obligé de dire, nous mettons fin au contrat. Et en plus, l'idée que c'était leur propre compagnie, eux, ils croyaient qu'ils étaient pour vendre l'expertise à l'extérieur, ce que nous dit tout le temps Mme Forgette, ça va être bon pour les industries. Ils n'ont rien vendu à l'extérieur du tout. Et là, ils sont obligés de changer de bord et réembauchent des ingénieurs, des cols blancs, des cols bleus. Ils reprennent en main l'assainissement de l'eau et la production d'eau potable.
Mais partout, ça a été un échec. À Buenos Aires, on en parlait pendant la pause, en Angleterre. Partout, ça a été un échec. Et pourtant, ces gens-là, ça s'informe pas de rien?
Ben, le lobby est très, très fort. Le Conseil mondial de l'eau, ça a des millions et des millions pour faire la promotion de l'eau gérée par le privé. Et gérée par le privé, ça veut dire que c'est leurs entreprises qui vont faire de l'argent. Parce que le Conseil mondial de l'eau, c'est une chambre de commerce de Viola, Vivendi, Général des eaux, ils ont tout là-dedans.
À ne pas mélanger avec le contrat mondial de l'eau.
Non, pas du tout.
Signé par M. Ricardo Pétrella.
Ben non, ça c'est d'autres choses.
Pour la reconnaissance de l'eau comme bien commun de l'humanité.
Voilà.
Non,
mais le Conseil mondial de l'eau, il faut le retenir, c'est M. Cosgrove qui gère ça, un ancien ministre canadien, et on l'entend beaucoup parler sur Toronto du 22 mars. Et ils étaient tellement tannés de faire faillite dans les pays du tiers-monde avec leur compagnie d'eau, ils ont décidé qu'ils étaient maintenant contre la privatisation. Imaginez-vous une chambre de commerce qui est contre la privatisation.
C'est vrai, ils ont pris position l'année passée pour
qu'on
revienne.
Ils ont changé leur position. Ils disent maintenant qu'ils sont pour la gestion déléguée. Alors, c'est encore pire. Ils n'investissent pas. Ils risquent plus de faire faillite dans leur belle incompétence, mais ils vont nous gérer nos eaux sur des contrats de 30-35 ans. C'est d'un ridicule consommé. Et tous les exemples qui nous sont amenés font la preuve que ça ne fonctionne pas. Mais il y a des Québécois souvent qui prennent le train en retard sur les affaires qui sont à la mode, mais ils débarquent bien plus loin que la gare aussi.
Le temps file à une vitesse incroyable, c'est que ces enjeux-là sont passionnants et très, très inquiétants. Peut-être terminer sur qu'est-ce qu'on peut faire. Vous disiez tout à l'heure, citoyens et citoyennes, il faut qu'on se mobilise ici au Québec parce que la privatisation nous guette et ces PPP-là nous guettent. Et donc, c'est le moment ou jamais de se faire entendre de nos politiciens, donc d'écrire des lettres à nos députés, à nos maires.
Savez-vous ce qui est le plus intéressant puis que les gens ont oublié? On se bat beaucoup contre la mondialisation puis les gros méchants qui concoquent des choses dans un raccoin en quelque part. Mais si on veut que la démocratie fonctionne, faut téléphoner à notre député. Faut y envoyer un petit mot. Dire, monsieur le député, je reste au telle adresse. Je suis un de vos électeurs. Je suis contre le partenariat public-privé. Juste un petit mot. Pas besoin d'écrire 14 pages, connaître le dossier à fond. Juste lui dire, je suis contre et je m'en souviendrai. Parce que si eux, on n'est pas capable de les convaincre, on ne pourra pas convaincre après le premier ministre. Et le premier ministre qui envoie son monde un peu partout dans les délégations de l'ONU, on ne pourra pas les convaincre puisqu'on va envoyer des gens d'accord avec l'industrie privée. Alors, il faut commencer par convaincre nos députés derrière. Ben, des fois, on n'aime pas ça. On dit, ils font rien. Mais ils font rien, on s'en occupe peut-être pas.
On s'en occupe peut-être pas et ça sera le mot de la fin parce que le temps passe trop vite.
Et voilà.
Et donc, je vous invite tous nos auditeurs et auditrices, bien entendu, à découvrir le site d'Eau Secours. Une foule de renseignements et de faits absolument intéressants et essentiels. Est-ce qu'on a le droit de pas s'intéresser à ces questions-là? Je pense pas. Ça nous concerne tous, comme vous le disiez très bien. Donc, sur le site de Eau Secours, eausecours.org, mais à partir de notre site à nous, au www, vous pourrez trouver tout ça.
www.radioderium.net.
Merci, c'est l'habitude. Au retour, coup de cœur, coup de masse et au calendrier cette semaine. Et oui, vous êtes toujours avec nous, Delirium Environnemental, le magazine d'information en environnement. Et c'est déjà la fin pour cette semaine. Alors, c'est des coups de cœur, coups de masse et au calendrier cette semaine, messieurs. Faites-vous plaisir.
Eh bien, moi, je reprends une nouvelle que je tourne en coup de masse, qui était déjà un coup de masse. On a reproché au premier ministre Paul Martin d'avoir dépensé jusqu'à 1 million $ en frais de déplacement lors de la dernière tournée préélectorale. Mais je vous dirais, M. Martin, avez-vous pensé aux émissions de gaz à effet de serre que votre avion a dispersé un peu partout? C'est complètement dégueulasse. Ça veut dire, vous êtes pour Kyoto, on le voit tout de suite.
Vous savez que c'est 8 000 $ de l'heure pour prendre l'avion avec le premier ministre. Eh bien, je donne un coup de cœur massif et tout à fait de joie au nouveau projet Montréal qui vient de sortir. Un projet politique ici à Montréal, un parti politique tout à fait vert avec pour intérêt de rendre le développement durable à son plus concret dans la vie de tous les jours. Alors, je lève mon chapeau. Félicitations à toute l'équipe. On espère que vous allez être élus.
Ben là, ça va trop loin. Je vais vous faire un beau coup de masse. Moi, au coup de masse aux politiciens qui sont vraiment déconnectés de la... la réalité. C'est-à-dire, la population en entier se mobilise autour d'enjeux qui sont tout à fait essentiels à la survie de la population du Québec. Si vous n'êtes pas foutus d'écouter, je parle de la question de l'eau, je parle de la question des forêts, je parle de la question des OGM, réveillez-vous, qu'est-ce que vous faites?
Ah, mais quand déconnecté, je suis son compte de banque, là, ça règle bien les affaires.
Oui, il n'y a rien.
Un coup de cœur, bravo pour le projet Garderie Bio, coordonné par Équiterre, qui a été
Équiterre.
Doublement honoré d'un prestigieux prix dans le gala Excellence du recoupement des centres de la petite enfance de la Montérégie. Le projet, dans le fond, a but de faciliter l'accessibilité aux aliments biologiques dans la garderie et surtout de sensibiliser les enfants, les parents et les intervenants de la petite enfance au lien qui existe entre la consommation locale, l'agriculture bio et la santé.
Vraiment, ça, c'est un beau projet. Ça a été fondé en 2002 sous la coordination du magnifique groupe Équiterre que je vous invite à découvrir via notre site Internet, bien entendu. Depuis 2002, les CPE, les centres de la petite enfance, sont passés de 5 garderies bio à 20. Bravo, ça va être pas mal.
Eh bien, mesdames et messieurs, ce n'est plus le chroniqueur de l'éducation environnementale qui vous parle, mais c'est bien l'étudiant finissant en maîtrise en sciences de l'environnement qui vous parle,
ouais.
Qui appelle à la mobilisation ce mercredi 10 novembre à 14h, rassemblement au Carré Berry. Pourquoi? Manifestation étudiante contre la réforme de l'aide financière aux études. On parle d'une coupure de 103 millions de dollars dans les prêts et bourses. C'est d'un non-sens. La marche part à 5h du Carré Berry. Vous vous devez d'être là. Vous êtes vieux, jeune, handicapé, n'importe quoi. Il faut se mobiliser. C'est un projet qui n'a pas de bon sens. 3h, Carré Berry, 10 novembre.
Voilà, le départ est à 3h. Il n'y a aucune raison de ne pas être là. C'est une génération entière qui va être hypothéquée. C'est de l'argent qui ne sera pas investi dans l'économie parce qu'on va être en train de rembourser nos prêts étudiants.
Ça, c'était pas clair.
Je me comprends.
Bref, allez marcher.
Coup de cœur, coup de masse au calendrier?
Eh bien, Hummer qui vise un vaste marché. Hummer qui est toujours plus stupide. General Motors, les producteurs d'Hummer, qui vise un marché, dans le fond, parce qu'ils se rendent compte que le Hummer est trop coûteux et surtout trop énergivore. Écoutez, ils vont rapetisser 17 pouces le Hummer. Ils vont passer de 18 litres au 5 km à 14,3 litres au 5
km.
Hey, c'est beau. Et même, ils vont mettre en marche le H2H, un Hummer propulsé par une pile à combustible à l'hydrogène pour la prêter à Arnold Schwarzenegger.
Moi, vraiment, au calendrier cette semaine, louez-vous dans une galaxie près de chez vous. Si vous n'êtes pas allé le voir au cinéma, je pense que ça vaut la peine. C'est une belle fiction écologique. Ça vaut la peine. C'est drôle. Puis c'est fait ici par des gens brillants. Faut les encourager.
Eh bien, dans cette section cinéma, vous devez d'aller voir The Take, le film de M. Lewis et de Naomi Klein. Un film révolutionnaire qui nous donne de l'espoir, qui montre l'importance de la communauté. Un excellent film que vous devez voir. S'il vous plaît, allez voir ça. C'est The Take à l'Excentris, au AMC Forum, puis à Duparc. Allez voir ça, ça vaut la peine.
C'est un mot, c'est en Argentine.
Exactement, la reprise de la communauté. C'est pas les maniquiladoras, mais c'est des industries en général. Allez voir ça, s'il vous plaît.
Eh bien, oui, c'est déjà la fin, malheureusement. Le temps passe vite quand on s'amuse. Vous venez d'entendre Delirium Environnemental, le magazine d'information en environnement. Vous pouvez aller sur notre site Internet au www.radiodelirium.net pour vous inscrire, entre autres, à la cyberlette qu'on vous envoie tous les semaines, mais également pour nous envoyer des commentaires, suggestions, questions. Ça me fait toujours extrêmement plaisir de vous lire. Delirium Environnemental, c'est avant tout une équipe magique. L'équipe magique en studio avec moi cette semaine, c'était Nicolas Milo, Nicolas Mainville. Moi, c'était Sofiane Legendre. Et à la régie, la technique et la conception du site, Étienne Côté-Paluc. Bien entendu, vous aurez peut-être reconnu Patrick Bonin ainsi que Hugo Lachapelle dans nos belles antitubes. Merci beaucoup à toute l'équipe. Au plaisir toujours renouvelé de vous retrouver la semaine prochaine. D'ailleurs, la semaine prochaine, on reçoit M. Clifford de Lincoln. C'est lui qui a préfacé le livre... Notre avenir à tous était un livre très important. Donc, la semaine prochaine, c'est une